Bonjour. Je suis venue aujourd'hui vous raconter des choses de la part de Monsieur Adam Zagajewski, d'un bouquin qui s'appelle Éloge de la ferveur, traduit du polonais par Laurence Dièvre, publié chez Fayard. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la visite d'un ami qui est musicien. Aussi, nous allons bénéficier d'une introduction, de quelques arrangements ici et là, et ce sera bien agréable. Parole à la musique. Faut-il aller visiter les lieux saints? Faut-il aller visiter les lieux saints? Faut-il aller visiter les lieux saints? Il ne faut pas aller visiter les lieux mythiques, me disais-je. Il ne faut pas aller voir les villes qui pèsent dans la mémoire aussi lourd qu'une statue en bronze. Il ne le faut pas tout simplement parce qu'une fois à destination, on ne sait trop que faire de son émotion, une émotion très vive. Mon père, pour qui Lviv, aujourd'hui Lviv, a été pendant des années la seule et unique ville et la seule et unique image du monde, il y est né et y a passé toute sa jeunesse, refuse systématiquement d'y retourner. Mais quand je suis revenu d'Ukraine, moi qui suis certes né à Lviv, mais n'ai jamais eu le temps de la connaître, et que j'ai montré à mon père les photographies que je venais de faire développer, il a immédiatement reconnu et nommé chaque rue, chaque ruelle, presque chaque maison après 56 ans d'absence. Notre vie spirituelle, telle un atelier de couture prospère, donne l'impression d'avoir recruté une foule de petites mains, tailleurs et couturières, dont les tâches sont partagées, mais aussi opposées. Les uns, calmes, un peu mélancoliques peut-être, entretiennent le mythe dans une virginité parfaite en le mettant à l'abri de tout regard inquisiteur. Les autres, par contre, agités et sceptiques, armés d'énormes ciseaux, sont occupés en permanence à le réviser et même à le critiquer avec une certaine insolence. Une invitation du Heinrich Böll Stiftung à un colloque international à Lviv en mai 2001 ne pouvait tomber qu'entre les mains du second, qui sont plus les adversaires du mythe que ses gardiens. Il se frottait sûrement les mains en répétant « Bien sûr, qu'il y aille, peut-être que le sentiment qu'il éprouve pour cette ville curieuse, sise aux confins de l'Europe, va enfin lui passer. » Notre car est entré dans le vif tard le soir, dans cette ambiance feutrée, irréelle, qui émane de tout autocar confortable. Tiède forteresse de sécurité et de somnolence, monument mobile de la civilisation, d'où les représentants d'un monde meilleur contemplent la réalité imparfaite. Cette impression était encore renforcée par le fait qu'on apercevait de l'autre côté de la vitre, flou, ces horribles blocs post-communistes qu'on peut voir du Kamtchatka à Leipzig, menhirs ornant les ruines de l'Empire soviétique. On peut en voir aussi dans une meilleure version technique, car non philosophique, de Leipzig à Lisbonne, mais comme encore plus triste. Le jeudi 24 mai, en revanche, vers 8h du matin, lorsque j'ai ouvert les rideaux de ma chambre d'hôtel au 6e étage, juste au-dessus de la masse sombre du jardin des Jésuites, où un de mes cousins du 19e siècle, jeune juriste et poète, avait pris si froid qu'il mourut bientôt d'une pneumonie et n'est plus depuis qu'une ombre élégante sur un portrait à l'huile, s'est offert à mes yeux le spectacle éblouissant d'une belle ville jaune d'or dans la lumière d'un soleil éclatant. Le petit troupeau de railleurs à l'intérieur de moi s'est tu. Les ciseaux se sont immobilisés. Pendant les 3 jours de mon séjour à Lviv, le soleil a été le maître absolu du ciel. J'avais sous les yeux une ville dorée, douce, que je regardais d'une double éminence. À la hauteur du jardin des Jésuites, à flanc de colline, s'ajoutait celle de mon 6e étage. C'était un hôtel récent, achevé dans les années 80. Au loin, je pouvais apercevoir des clochers. J'étais capable de distinguer celui de la cathédrale, le dôme vert de l'église des Dominicains, le beffroi. Je devinais l'endroit où se trouvait la façade ornementale de l'église des Bernardins. Je savais où était la place du marché. J'imaginais le théâtre, caché dans les étages inférieurs de cette jungle matinale. Je voyais la colline du château, fermant la perspective comme un paravent de théâtre. Et plus loin sur la droite, toujours dans le cadre de la forêt urbaine, le Kaiserwald, ce quartier où devait se trouver la maison de taille modeste que mon grand-père avait achetée dans les années 1920, la maison où je suis né. J'avais sous les yeux une ville à la fois totalement inconnue et tout ce qu'il y avait de plus connu. Oubliée, abandonnée, pleurée, fusillée, et qui pourtant existait réellement. Une ville à présent éclairée de la manière la plus crue et la plus réelle, colorée et vivante, où j'avais immédiatement su reconnaître les églises les plus importantes et dont la topographie générale n'avait aucun secret pour moi. Une ville qui s'étirait dans le bas, cachée entre ses collines, calme, majestueuse. Il ne faut pas aller dans les lieux mythiques. Il est impossible de les regarder, de les voir, les saisir. Il est facile de les reconnaître, mais après, que fait-on ? Au bout d'un long moment, j'ai capitulé et pris mon appareil photo japonais pour immortaliser l'incroyable spectacle matinal offert par la ville. Sur la photo, que je regarde maintenant sans émotion, on ne voit presque rien. L'éclat de mai a perdu sa splendeur. Les clochers sont à peine visibles. Seuls les feuillages se vantent de leur universalité facile et la tour de télévision se profile dans la brume matinale. Par bonheur, je n'avais pas encore à prendre de décision. Je pouvais remettre à plus tard mes questions et mes hésitations. Le premier jour était entièrement consacré à des débats politiques et économiques traitant de la question de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, à l'heure actuelle et dans la perspective de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. J'admirais le savoir et l'éloquence de mes compagnons qui se souvenaient des dates de chaque pogrom, de chaque insurrection et de toutes les conférences internationales. J'en parle sans doute sur un ton un peu trop badin, mais je suis sincère. J'aimais aussi la passion avec laquelle ils discutaient de l'avenir. J'écoutais avec beaucoup de sympathie les communications des Ukrainiens participant à la rencontre. Ils parlaient ouvertement de la misère noire de leurs concitoyens dans la vie de tous les jours et jetaient des regards non dénués d'envie et chargés d'espoir en direction de leur voisin occidental, la Pologne. Ce qui ne les empêchait pas de le regarder d'un œil critique, en particulier les représentants de la minorité ukrainienne en Pologne. Pour ma part, je me suis compromis en répondant d'une façon très décevante lorsqu'on m'a demandé à brûle-pourpoint de dépeindre l'évolution de la position des historiens polonais sur la question ukrainienne dans les années 70 et 80 du XXe siècle. J'ai seulement confirmé l'opinion négative que la part lucide de l'humanité nourrit sur les poètes depuis déjà 3000 ans. Le lendemain, après avoir établi un diagnostic pessimiste sur l'avenir de l'Ukraine et sur l'éventualité de son entrée dans l'Union européenne, les invités à la conférence bouclaient leurs valises et se dispersaient, pour la plupart vers l'Allemagne et la Pologne, ou se hâtaient peut-être vers une nouvelle rencontre internationale consacrée à des préoccupations européennes ne souffrant aucun délai, pendant que, de mon côté, je commençais mon travail de pèlerin aux prérogatives et aux obligations floues. Je me trouvais en effet dans un point du monde des plus extraordinaires pour moi, dans une ville qui était ma ville, tout en ne l'étant pas, sur laquelle je savais peu de choses. dans une ville inconnue, sur laquelle je savais beaucoup de choses, qui étaient donc un peu miennes. C'était comme si la belle expression de docta ignorantia avait quitté les pages des livres pour devenir une plaie à vif sur la carte verte de l'Europe. Que devais-je faire ? Comment procède un voyageur d'une obédience si particulière ? Il n'existe pas de guide pour les ignorants nés à Lyov. Il n'y a pas d'instruction pour les gens comme nous qui n'ont vécu à Lyov que 4 mois et ne savent rien. Aucun appareil japonais n'est capable de saisir le passé. Un plan de la ville datant d'avant-guerre, ne dit rien du présent. Le matin, poussé par le sentiment du devoir, je me suis rendu à la galerie de peinture qui se trouve en face de l'ancien Ossolineum. J'ai contemplé des dizaines de tableaux italiens et français, des toiles noircies accrochées sur des murs qui avaient un sérieux besoin d'être repeints. On voit que le musée n'a pas plus d'argent que certains musées de Pologne. J'ai vu aussi beaucoup de peintures polonaises à la fin du XIXe siècle et de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Sur le chemin de la galerie, je me suis comporté comme dans une bourgade d'Italie ou une petite ville de France, comme un touriste. Cependant, l'idée que ce n'était pas la bonne façon d'être dans cette ville ne me quittait pas. Quelqu'un qui, comme moi à Lviv, éprouve du respect pour le mythe et le souvenir, est comme plongé dans un rêve narcissique. C'est pourquoi il recherche les endroits un peu sombres, les salles de musée plutôt désertes et les parcs ombragés. Il se sent mal en revanche dans la rue, sous l'éclairage cruel du soleil de mai. Il éprouve un sentiment encore plus bizarre quand il regarde la foule ukrainienne envahissant les rues lumineuses. Cette foule, ici jeune et insouciante, là vraiment vieille et très soucieuse, pauvre, dans une tenue parfois plus campagnarde que citadine, brise le rêve, annihile les spéculations. C'est être dans une situation très étrange que de se retrouver dans une ville qui est presque connue, entre guillemets, connue jusqu'aux larmes, aux amygdales, aux veines, comme dit Mandelstam, mais remplie par une foule tout à fait différente, étrangère. Pas même différente de celle que l'on a connue, car enfin, je ne peux pas dire que j'ai connu la foule de Lviv d'avant-guerre, mais différente, par exemple, de celle de Cracovie ou de Varsovie, voire de Gliwice. Plongée dans mon rêve, je marche dans la rue inondée d'un soleil ardent. Sur le plan d'avant-guerre que mon père m'a envoyé, je vérifie les noms des rues sans prendre trop au sérieux les nouvelles appellations ukrainiennes. Les touristes allemands arpentent à coup sûr de la même façon les rues de Gdansk et de Wroclaw, plongés dans leurs rêves, ignorant l'actualité de la ville. C'est également ainsi que les jeunes juifs américains ou israéliens doivent arpenter les rues de Kazimierz, l'ancien quartier juif de Cracovie, à la recherche de traces de la vie d'avant-guerre, plongés dans leurs rêves. Nous sommes comme des esprits, repoussant d'un geste impatient toute la réalité, c'est-à-dire la vie nouvelle. Parce que la vie nouvelle dans les vieilles villes nous semble imparfaite, provisoire, fortuite et en fait inutile. Dans un sens, tous ces rêveurs à la recherche du passé dont j'ai été, moi aussi, pendant les 3 jours où j'ai arpenté les rues et les parcs de Lviv, sont des conservateurs idéaux et la réplique idéale de l'impuissance du conservatisme. Ils cherchent quelque chose qui n'existe pas et n'a même jamais existé, parce que leur imagination embellit la foule citadine dont ils poursuivent la chimère. Ils cherchent des temps meilleurs, plus beaux. Et si un aimable chaman acceptait de ressusciter 5 minutes l'objet de leur désir, c'est-à-dire la vie d'avant la catastrophe, les gens d'avant la catastrophe, les nuages d'avant la catastrophe, les vitrines d'avant la catastrophe, les buissons de lilas d'avant la catastrophe. De toute façon, ils s'exclameraient déçus. Oh non, ce n'est pas ça, c'était bien plus beau. Un jeune historien ukrainien, amoureux de Lviv, rédacteur en chef de J Magazine, parlant un excellent polonais et bon connaisseur de la littérature polonaise, a été mon sorcier. Un sorcier différent, avisé. Il m'avait proposé de me montrer la ville et s'est promené avec moi une demi-journée dans Lviv. Il a choisi un chemin détourné qui menait aux abords de la place du marché, en traversant le quartier Likakevski, l'ancien Lichakakov, et celui du Wysoki Zamok, le château. Dans la rue Akademika, c'est le nom d'avant-guerre, mais il connaissait bien les noms d'autrefois, il m'a montré l'endroit où se trouvait l'Écossais, le célèbre café des philosophes. Un peu plus loin, alors que nous croisions un groupe de jeunes qui parlaient russe, Andrei m'a dit qu'il s'agissait probablement d'élèves de l'école polonaise. Dans la rue, ils parlent russe entre eux. Son érudition m'a aidé à redescendre sur terre. Nous avons vu, au 55 rue Likakevska, anciennement Lichakovska, la maison où a vécu Zbigniew Herbert. Andrei m'a parlé des démarches entreprises pour y faire apposer une plaque commémorative. Nous sommes aussi allés rue Piskova, anciennement Piaskova, à deux pas de la rue Likakivska, voir la maison qui avait été jadis la propriété de mon grand-père. Si j'avais été seul, je me serais sûrement contenté de contempler la clôture, le portillon, la poignée rouillée et les arbres du jardin. Il est probable que je ne me serais même pas rappelé que l'ancienne maison de ma famille était cachée, dissimulée derrière la propriété qui donnait sur la rue et appartenait à quelqu'un d'autre. J'aurais donc commis l'erreur classique des esprits qui se promènent dans les villes nouvelles selon l'ancien calendrier, si arrogant qu'il leur arrive parfois de s'extasier à une mauvaise adresse. Fort heureusement, André m'a proposé de visiter la maison, puis a appuyé sur la sonnette. Il a expliqué dans l'interphone de qui il était accompagné. Au bout d'un long moment est apparue à la grille une vieille femme un peu méfiante au début, mais vite, très hospitalière. Elle nous a fait entrer dans le jardin, puis dans la maison. Grâce à André, j'ai découvert l'intérieur de la maison de famille mythique où habite à présent la vieille dame et son fils dermatologue, grâce à mon guide. J'étais déjà venu à Lviv quand j'étais étudiant, mais je n'avais pas osé aller frapper à la porte de notre ex-maison. J'ai alors compris à quel point nous avons besoin d'un guide intelligent qui connaisse bien les strates récentes actuelles de la réalité sans pour autant ignorer le passé. Un guide qui nous sauve de notre mysticisme nébuleux. « Oui, me suis-je dit, déjà dans l'avion, il faut aller visiter les lieux mythiques, même si l'on doit traverser des moments difficiles. » Même si l'on doit ressentir de la tristesse, il faut visiter les lieux mythiques parce qu'ils sont un pôle de notre vie qui pointe dans les terres glacées. Il faut les visiter en essayant de se trouver un bon guide plein de lucidité. Dans le petit aéroport de Lviv, m'ont dit au revoir des sculptures en grès datant du réalisme socialiste. Un soldat, une paysanne, un aviateur, et un ouvrier, raidi dans le soleil éclatant de mai, comme les héros d'une saga grecque oubliée. Voilà, c'est écrit en 2001 par Adam Zagaïevski. Ça s'appelle « L'éloge de la ferveur ». Chers amis de Radio Vassivière, vous avez entendu des compositions d'Olivier Philipson qui a donc joué à l'accordéon la mazurka langoureuse, la mazurka des murs à pêche, Heptavals et pour terminer, enfin libre. Sur l'auteur Adam Zagaïevski, je voudrais vous donner maintenant un petit résumé de sa vie. Né en 1945 à Lviv, Adam Zagaïevski vit actuellement à Cracovie. Auteur d'essais, de plusieurs recueils de poèmes et de 3 romans, il compte parmi les plus grands poètes contemporains. Chez Fayard sont parus « Solidarité »,« Solitude »,« Coup de crayon »,« La trahison ». Dans une autre beauté ainsi que 2 recueils de poèmes, Palissade, Marronnier, Liseron, Dieu et Mystique pour débutants. Je remercie Radio Vassivière de m'avoir laissé travailler chez eux ce matin. Et pour terminer, je vous donne quelques lignes d'un livre de Suzanne Sontag qui s'appelle sous le signe de Saturne. C'est donc un extrait. Hein. D'où ce dernier surprenant attribut que Elias Canetti reconnaît au grand écrivain qu'était Brault. Les écrivains de cette classe, dit-il, nous enseignent à respirer. Il loue ses écrits pour la richesse de leur expérience respiratoire. C'était le compliment le plus profond et le plus étrange qu'il put lui faire. Et c'est donc aussi celui qu'il fit à Goethe, qu'on ne s'étonnera pas de trouver au nombre de ceux qu'il admire. Goethe, en qui Canetti voit également quelqu'un qui nous dit « respirez ». La respiration peut être l'occupation la plus fondamentale qui soit, quand on la conçoit comme une façon de se délivrer d'autres besoins, comme celui de faire carrière, de construire sa réputation, d'accumuler des connaissances. Au terme de cet itinéraire de l'admiration qu'est son hommage à Brault, il nous suggère ce qu'il faut le plus admirer. L'admirateur sérieux s'accomplit dans le refus immédiat d'utiliser l'énergie suscitée par l'objet de son admiration, de remplir le vide qu'il a creusé en lui. Les admirateurs doués se donnent donc le droit de respirer plus profondément. Mais pour cela, il est nécessaire de dépasser le stade de l'avidité. Il est nécessaire de s'identifier à quelque chose qui soit au-delà de la réussite, au-delà de l'acquisition de la puissance. Ce texte est écrit en 1980 et il est traduit par Philippe Blanchard. Merci à Radio Vassivière encore une fois. Moi, je suis donc Pascal Ben et j'ai eu bien du plaisir à enregistrer chez vous des textes qui me touchent et qui me donnent de la lumière dans le chemin du quotidien. Bonne journée à tous, au revoir.